Bonjour à vous et bienvenue dans le 174e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Bulleur vous propose toutes les deux semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album La Route, adaptation du roman de Cormac McCarthy par le talentueux Manu Larcenet, un album très noir paru aux éditions d'Argo. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Avenir, que l'on doit au duo de scénaristes Pierre-Roland Saint-Dizier et Pierre Benazech, au dessin d'Eliott, et c'est publié aux éditions Ankama. Je parlerai ensuite de l'album Petit Pays, adaptation du roman de Gaël Faye par le duo Marzena Sova au scénario, Sylvain Savoya au dessin, et qui est publié aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. J'aborderai aussi la sortie de l'album Apart Hotel Deluxe, un titre qui nous entraîne au Costa Rica et que l'on doit au talentueux Edo Brenes et aux éditions La Boîte à Bulles. Ensuite, je vous parlerai de l'album Le Murmure de la Mer, titre qui nous transporte sur l'Océan Viking de la Fondation SOS Méditerranée qui coédite cet album d'Hippolyte en compagnie des éditions Les Arènes BD. Je vous présenterai Je suis Charrette, album qui nous entraîne dans les entrailles d'un cabinet d'architectes, un titre signé d'Annie Collatéral qui est paru aux éditions Delcourt. Enfin, je terminerai par la sortie d'un album choral, un nouveau documentaire BD des éditions Petit à Petit consacré à la chanteuse Amy Winehouse dont Tony Lourenceau signe le scénario et Elsa Gamba la partie documentaire. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est dans un univers bien sombre que je vous entraîne aujourd'hui, dans une fin du monde qui ne dit pas vraiment son nom, mais sur une terre où l'humanité a quasiment quitté les hommes qui la peuplent encore, mais jusqu'à quand? Dans cet univers apocalyptique, où l'atmosphère est à peine respirable, où seul le blanc de la neige peut encore recouvrir les traces de ce chaos et le noir de la cendre qui s'abat sans cesse, un homme et son fils marchent à la recherche du jour d'après. Après une adaptation au cinéma très remarquée, c'est Manu Larcenet qui a décidé de s'attaquer au roman de Cormac McCarthy, La Route, pour une bande dessinée qui retiendra assurément l'attention en 2024. Peut-être est-ce parce que les nouvelles du quotidien de notre monde actuel ne sont pas joyeuses, toujours est-il que ce récit et cette mise en bande dessinée trouvent un véritable écho et font ressurgir en nous des peurs que ce livre tente d'exprimer. De la première à la dernière page, dans un noir et blanc étouffant où les corps décharnés, couverts de couches de vêtements successives qui donnent un peu d'épaisseur aux hommes, nous suivons l'errance sur la route d'un homme accompagné de son fils. C'est d'ailleurs le seul enfant que l'on croisera dans cette histoire, tout au moins le seul enfant vivant et rempli d'humanité, lui qui symbolise cette lueur d'espoir dans un monde où la noirceur a tout recouvert, même les cœurs. Dès les premières pages, qui sont quasiment muettes, on découvre ces deux silhouettes bien emmitouflées pour résister à cet hiver rigoureux qui vient donner aux survivants une épreuve supplémentaire à leur calvaire. Il est difficile de les distinguer, ils ne sont plus que deux ombres qui marchent sans but, dans un décor où la trace de l'homme est partout alors que lui est nulle part, ou si, caché, prêt à dépouiller à l'occasion, dès la première baisse de vigilance. Car dans ce monde où il faut lutter pour rester en vie, une grande partie des hommes qui ont survécu se nourrissent de leurs congénères, chose que refusent catégoriquement nos deux héros, préférant mourir de faim que s'entre-dévorer. Sur les deux, on ne saura pas grand-chose d'ailleurs. Pour nous, ils resteront essentiellement des silhouettes dont les corps décharnés se montrent à l'occasion d'une douche ou d'un bain de mer, de rares moments de répit, dans une itinérance bien rude. Les corps, les âges, les noms, on comprend que tout s'efface quand il est question de survie, que mentir ou cacher est même un moyen efficace pour garantir son existence. Dans ce monde violent, il est important de ne pas montrer la moindre faille. C'est donc cet univers-là que déploie Manu Larcenet dans un album magistral, son trait précis, son cadrage dynamique, et l'auteur sait aussi bien s'attarder sur le décor apocalyptique de cette terre inhabitable que sur les traces laissées par les hommes qui l'ont quitté. Alors je tiens tout de même à le préciser, âme sensible s'abstenir, car si le dessin de l'auteur est rempli d'une certaine noirceur, il ne fait pas non plus l'économie des corps et des découvertes macabres que vont faire nos deux héros. N'aimant pas plus que ça la violence au cinéma et en bande dessinée, j'ai parfois dû me faire violence moi-même pour m'arrêter sur certaines scènes, encore plus quand elles montrent les vivants en quête de leur survie plutôt que les morts. Le dessin a ceci d'intéressant qu'il sait multiplier les cases sur certaines planches, arrêtant l'œil du lecteur sur des détails qui, mis bout à bout, permettent de se faire une idée précise de ce qu'est devenu le monde dans lequel évoluent nos protagonistes. C'est ainsi que sur 160 pages, on suit ce duo, on s'attache à cette humanité dont ils essayent de faire preuve, de l'altruisme qui honore cet enfant pour qui le partage a encore du sens, alors que c'est sa propre survie qui est en jeu. Le lecteur est comme entraîné par la main dans cette errance, nous rappelant par là même qu'il est un devenir possible, peut-être pas à cette échelle tout de même, si l'humanité ne fait pas preuve de plus de bienveillance envers les autres. Cette violence n'est donc pas vide de sens, mais sous-tendue par un discours profondément humaniste qu'incarne cet enfant, un discours que le dessin de Manu Larcenet sert à merveille, asphyxiant le lecteur dans cet album pour mieux le faire respirer quand il revient dans le monde réel. Sorti en librairie le 29 mars dernier aux éditions d'Argo, La Route fait partie de ces lectures qui marquent celles dont on gardera en nous longtemps la trace, un livre qui nous accompagne à notre tour sur la route de nos existences. Deuxième partie de ce podcast, dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. L'album qui ouvre cette revue des sorties aurait pu s'appeler Liberté, mais c'est finalement Avenir, le titre de ce one-shot, qui nous entraîne dans un futur où le duo Pierre-Roland Saint-Dizier et Pierre Benazèche au scénario n'a fait que pousser le curseur de notre monde actuel. La première planche de l'album résume le projet entre la lumière et la noirceur, la paix et la violence, le monde que dépeint Avenir est le reflet du nôtre, il en reprend en tout cas un certain nombre de contours. Dans ce monde, l'intelligence artificielle occupe une place bien plus importante qu'aujourd'hui, mais c'est peut-être la place que nous n'hésiterons pas à lui donner un jour, comme le rappellent les auteurs en fin d'album. Ainsi, dans le système éducatif, une intelligence artificielle est capable de prédire ce que sera l'avenir des enfants afin de les orienter le plus tôt possible vers ce devenir. La société ScanPsy, qui développe cette IA, va ainsi proposer à Evan et Julia, les parents de Matt, de placer leur fils dans un centre de rééducation pour lui éviter de devenir un futur délinquant, comme l'a prédit l'intelligence artificielle de l'école. Souffrant d'un supposé trouble de l'attention, celui qui rêve de devenir dessinateur et de créer des hologrammes quand il sera adulte s'engage alors sur la voie de l'échec et vers un avenir tout tracé que va essayer de contrer sa mère Julia. C'est que dans ce monde où l'on a réussi à faire baisser la délinquance et le chômage, on a aussi réussi à réduire à la portion congrue la part de liberté qu'ont les individus, à commencer par celle de se choisir son propre destin. C'est donc cette réflexion qui est au centre de cette histoire, jusqu'où sommes-nous prêts à abandonner notre liberté dans un monde où les algorithmes et l'intelligence artificielle sont capables de prendre les décisions à notre place. Symbole de ce lien renforcé entre l'homme et la machine, la grand-mère qui a toujours un casque de réalité virtuelle vissé sur la tête pour mieux s'évader d'un quotidien morne, et le fils Thomas qui passe ses journées sur les jeux en ligne avec ses amis. Stéphane, le frère de Julia, qui est journaliste, va tenter de réveiller l'opinion publique sur les dérives de ScanPsy et de son école Centre-Avenir, mais est-ce que ce sera suffisant pour opérer un bouleversement dans cette société dystopique, Là est tout le sel de cette histoire. Mise en dessin par Elliot, qui choisit des couleurs sombres et un graphisme aux contours bien définis, il en profite pour mélanger le réel et le virtuel, donnant aussi à des éléments du décor une apparence bien inquiétante. Avenir est un album particulièrement réussi, car sous couvert d'une histoire qui flirte avec la science-fiction, le titre parle surtout de notre société et des concessions que nous accordons au numérique, avec les risques que cela peut engendrer. Disponible depuis le 12 avril dernier en librairie, vous aurez compris qu'Avenir est un titre intelligent pour une histoire qui se déploie en 96 pages et que j'ai particulièrement apprécié. Album coup de poing directement adapté d'un roman de Gaël Faye, qui a connu un important succès et de multiples prix au moment de sa sortie, Petit Pays est une bande dessinée aussi passionnante que bouleversante, sortie le 12 avril dernier dans la collection Air Libre des éditions Dupuis. C'est la scénariste Marzena Sowa et le dessinateur Sylvain Savoya qui en signent l'adaptation, une adaptation qui sort au moment où l'on commémore la tragédie qui se joue au centre de ce roman et donc maintenant de cette adaptation, le génocide au Rwanda de 1994. Franco-rwandais, c'est sur les traces de ses origines que nous emmène Gaël Faye, en 1994 donc, au moment où va démarrer l'un des épisodes les plus tragiques qu'a connu l'Afrique moderne, le massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda. C'est dans un pays limitrophe, le Burundi, que nous entraîne cette histoire où l'on va plonger dans l'intimité d'une famille que forment Michel, blanc arrivé d'Europe, Yvonne, africaine d'origine Tutsi, réfugiée au Burundi, et leurs deux enfants, Anna et Gabriel, héros de cette histoire. C'est à travers ses yeux que l'on va vivre les événements qui vont secouer cette partie de l'Afrique, provoquant un déchaînement de violence qui va mettre à feu et à sang le Rwanda voisin et va avoir un impact jusqu'au Burundi, où sont venus se réfugier de nombreux Rwandais. En attendant, c'est avec une certaine quiétude que l'on découvre l'univers quotidien de Gabriel dans la grande maison d'une impasse dans la banlieue de Bujumbura, la capitale du pays qui s'apprête à voter pour la première fois. Entouré de ses copains, avec qui il fait les 400 coups, Gabriel connaît une enfance ordinaire qui va s'en trouver totalement bousculée et qui va le pousser à choisir un camp, choix terrible à faire quand on est encore un enfant. Remuant et intelligent dans sa construction, cet album permet de toucher du doigt la violence et l'absurdité de la guerre, surtout quand celle-ci ne nous concerne pas directement et que l'on se retrouve coincé au milieu des combats. Offrant des contrastes saisissants entre les noirs et les blancs, les Hutus et les Tutsis, les riches et les pauvres, mais aussi entre le monde innocent de l'enfance et celui cruel de la guerre, cette bande dessinée est une véritable gifle que prend le lecteur tout au long de la lecture. Le scénario de Marzena Sowa est dynamique, resserré et permet de garder intacte toute l'intensité du roman de Gaël Faye dans un titre qui s'étend sur 128 pages. Ne cherchant pas le réalisme à tout prix, puisque le récit est raconté à hauteur d'enfant, Sylvain Savoya propose un graphisme qui colle parfaitement bien au sujet, qui, tout en évitant de sombrer dans le gore et le sanguignolant, arrive à montrer toute la violence qui s'est déchaînée à cette époque dans cette région du monde. Avec un dessin dynamique lui aussi, mettant l'accent sur les émotions et les réactions des personnages, il nous embarque dans un album qu'il est impossible de refermer tant que l'on n'est pas arrivé à la dernière page. L'adaptation en bande dessinée est, comme vous l'aurez certainement compris, une véritable réussite, l'occasion de revenir sur un épisode terrible, le génocide des Tutsis par les Hutus, tout en se plongeant dans un récit captivant. Découvert pour ma part avec Bon baiser de Limon, l'auteur costaricain Edo Brenes a ce talent particulier pour raconter des histoires simples, mais captivantes, où les sentiments et les sensations occupent une place centrale. C'est encore le cas avec son nouvel ouvrage édité en France chez La Boîte à Bulles, Appart Hôtel de Luxe, une sorte de huis clos qui va se dérouler dans une résidence où l'on va y découvrir tous ses habitants. Nous commençons avec le personnage central de cette histoire, un jeune homme qui vient mettre de l'ordre dans l'appartement de son père récemment décédé, un père qui vivait justement dans cet immeuble des faubourgs de San José, la capitale du Costa Rica. Cette mort est l'occasion de replonger dans ses souvenirs d'enfance, des souvenirs où le personnage de Monsieur Mouse a joué un grand rôle, cette souris à la sauce sud-américaine dont les traits ne sont pas sans rappeler ceux de Mickey. D'ailleurs, le père avait gardé dans une boîte, telle une relique, cette peluche de Monsieur Mouse qu'il avait offerte à son fils étant enfant, un souvenir touchant que l'auteur prend le temps de nous raconter. Ce fil rouge, convocation de la mémoire sensible, est entrecoupé par la découverte de tous les personnages de cet immeuble, affairés devant la porte de chez Monsieur B, qui ne répond pas, et dont la douche coule depuis la matinée, selon les dires de Mademoiselle Tom. C'est ainsi qu'elle va taper chez le concierge, Monsieur Jean, afin de s'assurer qu'il n'est rien arrivé au locataire, le concierge ayant certainement les clés qui permettront de pénétrer dans le logement de Monsieur B. À deux dans le couloir, en train de taper à la porte, ils croisent sur le palier les différentes personnes de la résidence qui remontent chez elle, Isaac, dont le célibat lui pèse au quotidien, Tina, qui vend ses charmes contre de l'argent, cet homme qui aime se travestir et qui fréquente Tina, cette jeune femme qui drague au café en bas de chez elle et qui ramène des hommes à la maison, ou ce couple avec enfants qui disserte sexe et religion en écoutant les voisins tambouriner à la porte de chez Monsieur B. C'est une véritable micro-société que nous présentait Daubrenès, une société dont le lien apparaît au fur et à mesure que l'on tourne les pages, car en plus d'être agréable à lire, l'histoire est vraiment bien construite. Avec un style ligne claire, audacieux, dont l'agencement sur la page crée une véritable dynamique, l'auteur nous propose une plongée dans la société costaricienne avec une certaine sobriété et une intelligence que je retrouve avec plaisir. Sa mise en couleur est tout aussi délicate et douce, reflet du propos que tient Edo Brenes qui nous propose toujours de le suivre dans des histoires où il y met autant de justesse que de réflexion sur la part de nous que l'on cache aux autres par exemple ici. Sorti le 3 avril dernier en librairie, Appart Hôtel de Luxe fait partie de ces belles surprises de ce mois d'avril, un album dans lequel j'ai pris un grand plaisir à me plonger, à titre que je ne saurais trop vous recommander. Qui sauve un homme sauve l'humanité tout entière, voilà ce que l'on peut se dire en se plongeant dans l'album Le Murmure de la Mer, sauf qu'ici, ce sont pas moins de 39 165 personnes que les bateaux de l'ONG SOS Méditerranée ont sauvé depuis 2016. En s'embarquant sur l'un de ces bateaux emblématiques et médiatiques, l'Océan Viking, Hippolyte était peut-être loin de s'imaginer qu'il s'embarquait pour une histoire humaine qui allait changer sa vie et donner un bel album sorti en librairie le 4 avril dernier. Mais reprenons depuis le début, nous sommes en 2020, au moment où Hippolyte, auteur engagé installé à La Réunion depuis plus de 15 ans, décide de montrer de l'intérieur le travail de l'association SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants qui fuient leur pays. Malheureusement, en cette année de Covid, les bateaux sont coincés à quai sur ordre des autorités, des bateaux qui ne peuvent pas aller secourir en mer toutes ces embarcations de fortune dont l'arrivée du Covid n'a pas ralenti le rythme. Durant cette phase d'attente, c'est l'occasion pour Hippolyte de se préparer à cette odyssée, une préparation et des réflexions qu'il consigne et met en dessin dans la première partie de ce titre. Papa d'un petit Archibald, qu'il laisse sur son île pendant qu'il va sillonner la Méditerranée pour sauver d'autres enfants, mais aussi des femmes et des hommes, d'une noyade quasi certaine, Hippolyte se prépare en compagnie des autres membres d'équipage de manière très sérieuse. Car c'est cela que l'on découvre ici, toute l'abnégation, toute cette préparation, ce don de soi presque, d'une équipe dévouée à une cause qui est quasiment sans fin et contre laquelle les autorités européennes ou libyennes mettent souvent des bâtons dans les roues. En respectant scrupuleusement les lois, en documentant leurs interventions et en faisant preuve d'un humanisme remarquable, les équipes de SOS Méditerranée sont mises ici en avant dans un album passionnant et touchant où le lecteur est embarqué à leur côté. Dans ce reportage en bande dessinée, Hippolyte mélange avec brio du dessin croquis pris sur le vif, avec un style plus fouillé et travaillé, tout en incorporant ici et là des photos pour donner un peu plus de chair encore à son propos. Complété en fin d'album par un carnet de croquis, on ne ressort pas complètement indemne de cette lecture nécessaire qui met l'accent sur l'humanité des engagés de l'Océan Viking avec en toile de fond, comme le rappelle la chronologie finale, une Europe qui tente de verrouiller l'accès à son territoire, à ses hommes et à ses femmes qui rêvent seulement d'un avenir meilleur. Ce sont les éditions Les Arènes BD, en collaboration avec SOS Méditerranée, qui publient cet ouvrage superbe où la couverture bleue, d'où jaillit un lever de soleil jaune, montrant le bateau portant secours à une embarcation de fortune, résume à elle seule le propos. Avez-vous déjà rêvé de franchir les portes d'un cabinet d'architecte pour découvrir ce qui s'y passe, pour découvrir l'effervescence qui y règne au moment de participer à un concours, surtout si de celui-ci découle l'avenir de ce même cabinet. Ce sont les ingrédients que met en place l'artiste Danny Collateral, ancien architecte de son état, qui signe avec Je suis Charette sa seconde bande dessinée et une première dans un univers qu'il connaît très bien. Ici, l'auteur se cache sous les traits d'un jeune architecte stagiaire qui va intégrer l'une des prestigieuses agences parisiennes AXN pour Agence Xavier Nolan, du nom d'un ancien vainqueur du prix Pritzker, équivalent du Nobel pour l'architecture. L'architecte principal, n'étant quasiment jamais présent au cabinet, c'est à Bernard Lefebvre ou encore à celui que tout le monde nomme le loup-garou en raison de sa couleur de cheveux et de son air féroce, de diriger la boîte et de mener à bien ce projet d'ampleur. C'est donc dans ce quotidien que nous sommes embarqués, dans ce milieu dont on découvre les codes au fur et à mesure des pages que l'on tourne, après une introduction où l'on a appris à découvrir Enzo et son logement parisien qu'il a obtenu grâce à un tiramisu. C'est que le Enzo en question est d'origine italienne, il a d'ailleurs un petit accent, et sa coupe de footballeur lui vaudra bientôt le surnom de Verratti au sein de l'agence. Si l'album, sous-titré « Vie d'architecte », ne présente que des personnages imaginaires, Danny Collateral prévient d'entrée que toutes les figures présentes dans cette bande dessinée sont inspirées de ses expériences réelles. Pour en revenir à l'expression qui donne son nom à l'album, « Je suis Charette », elle vient surtout du fait que très vite, à l'approche de la date fatidique pour rendre le projet, l'équipe travaille avec acharnement sans compter ses jours et ses nuits, provoquant à la fois stimulation et surmenage chez les salariés présents. C'est tout cela que nous raconte cette bande dessinée qui fait pas moins de 208 pages, avec un style qui diffère d'un passage à l'autre, reposant sur un graphisme simple, géométrique sur certaines planches, avec des aplats de couleurs variant entre le rouge, le blanc, le bleu, mais aussi de l'orange pour ce qui concerne le fameux loup-garou. L'album propose même deux doubles pages où vous êtes le héros, au cœur du cabinet d'architecte, vous aurez la lourde charge de prendre des décisions si vous voulez avancer dans l'intrigue, de quoi apporter un peu de variété à cette lecture. Vous aurez compris que j'ai beaucoup aimé accompagner Enzo dans cette aventure. Paru aux éditions Delcourt le 10 avril dernier, Je suis Charette est un titre qui sait faire preuve d'originalité et se rendre intéressant, tout en nous entraînant dans le monde très secret des cabinets d'architectes. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas par une intégrale ou une réédition que je vais terminer cet épisode, mais par un album qui revient sur l'une des artistes qui a traversé le monde de la chanson comme une comète qui a laissé une longue traînée après son passage, je veux parler d'Amy Winehouse. Alors que sort sur les écrans un biopic qui lui est consacré, en bande dessinée, ce sont les éditions Petit à Petit qui ont ajouté le destin de cet artiste hors norme à leur collection, un destin qui se raconte ici en 128 pages. C'est donc dans la fameuse collection DocuBD que vient prendre place ce nouveau venu, une collection qui s'enrichit encore un peu plus après des titres consacrés à Nina Simone, Alain Bashung ou encore Otis Redding, pour ne vous parler que de se présenter ici ou sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez, vous connaissez certainement le principe de cette collection qui fait s'alterner la bande dessinée et le texte, une partie bande dessinée qui, comme souvent, est signée par des auteurs différents. C'est encore le cas ici, pour croquer celle qui rejoignit le 23 juillet 2011 le club très fermé des artistes décédés à 27 ans comme Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix ou encore Jim Morrison. Mais avant d'en arriver là, on découvre la petite fille qu'elle fut dans les premiers chapitres, une petite fille dynamique que l'on baptise rapidement Hurricane Amy, la Tornade Amy, en raison de son tempérament et de son envie d'aller toujours très vite. Elle va ainsi grandir dans une famille d'artistes amateurs, dont la grand-mère, qui inspirera beaucoup la chanteuse britannique, veillera jusqu'à sa mort sur cette petite fille qui lui ressemble tellement. Le décès de la grand-mère sera d'ailleurs un véritable traumatisme pour l'artiste, de même que la séparation de son père Mitch avec sa mère, un autre trauma qui mettra en place une relation particulière avec les hommes qui ne sera pas sans conséquences. alternant la partie documentaire que l'on doit à Elsa Gambin avec l'histoire en bande dessinée que signe Tony Lourenço pour le scénario et une pléiade d'artistes talentueux pour le dessin, nous sommes entraînés dans la période où la voix d'Amy va faire chavirer le public, comme le monde de la musique en général. Le succès fut aussi fulgurant que sa carrière, ponctué de 2 albums, une carrière qui sera accompagnée par les nombreuses addictions comme l'alcool et la drogue, quand ce n'est pas l'amour pour Blake qui accélérera la perte de celle qu'il finira par épouser et quitter. Tout cela, des artistes aux styles très différents comme Laurine Lestra, Mad, Margherita Petrucci, Pierre Radic ou encore Juliette Vaste, nous le montrent dans une alternance qui, comme souvent, donne beaucoup de dynamisme à cet album. Dur de raconter et d'écrire le style de chacun ou chacune, parfois la bichromie succède à la couleur, la rondeur vient remplacer un style plus académique, le tout rendant un bel hommage sincère et précis sur ce que fut Amy Winehouse. Sorti en librairie le 17 avril dernier, cet album séduira certainement les fans de la première heure à n'en pas douter, mais comme cela a agi pour moi, il donnera envie à celles et ceux qui ne la connaissent pas très bien de découvrir plus en détail son répertoire. Ainsi se termine ce 174e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à l'album La Route, adaptation du roman de Cormac McCarthy par Manu Larcenet, pour un titre sorti aux éditions d'Argo. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Bulleur en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebulleur.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 13 mai, le podcast s'accordant une semaine de vacances, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.